Greg m'a un petit peu piqué mon intro là. C'est la Saint-Valentin? Non, mais c'est très bien. C'est très bien. C'est la fête des amoureux. Ça pourrait vous motiver, hein? Bon.
On doit se faire un bisou?
Vous avez le droit de vous faire un bisou. Alors, bien sûr, il y a des fêtes comme ça qui sont commerciales. Ben oui, c'est commercial, hein, c'est uniquement, enfin, pas uniquement commercial, mais c'est commercial en tout cas. Mais par rapport à Noël, dont on a perdu le sens, Noël, c'est dans le monde, c'est pas la fête. Là, dans cette fête-là, on parle d'amour. Au moins, c'est ça, déjà. Alors, une autre question, enfin, en tout cas, une question. Pourquoi est-ce que nous nous réunissons ici, dimanche après dimanche? Eh bien, c'est parce que Dieu est amour. C'est parce que Dieu est amour. 1 Jean 4, 8, Dieu est amour. La Bible nous parle sans cesse de l'amour de Dieu. Un amour qui sauve d'une mort certaine. Voilà. J'aime pas moi ce truc qui bouge devant. Un amour qui sauve sans cesse d'une mort certaine et éternelle. C'est Jésus-Christ sauveur. Mais un amour qui parle aussi d'une vie de plénitude. C'est Jésus-Christ Seigneur. L'homme reçoit donc par la grâce de Dieu la possibilité de passer de la mort à la vie, mais aussi la possibilité de vivre avec lui éternellement. Un texte bien connu de la Bible me semble illustrer ce chemin de la mort vers la vie. C'est un texte que vous connaissez, je n'ai pas envie de dire par cœur, mais peut-être pas loin. Je ne vous donne pas le titre, vous le verrez bien, vous le trouverez tout seul. On le lit. C'est un texte de Luc 15, à partir du verset 12. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit dans un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service des habitants du pays, au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs pour garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva, il alla vers son père. Comme il était encore loin, le père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la belle robe et vous l'en revêtez. Mettez-lui vite un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. On s'arrête là. Vous connaissez ce texte. Vous êtes rendu compte peut-être que, bien souvent, la Bible ne nous dit pas les choses telles qu'elles paraissent être, ou telles qu'elles nous paraissent être, mais telles qu'elles sont réellement. Telles qu'elles sont réellement. Ce texte nous interroge sur notre situation personnelle. Et ce texte nous invite, chacun, personnellement, à nous interroger sur notre propre situation. Et la phrase qui m'intéresse, c'est « Est-ce que le Fils était réellement mort ?» Et moi, et nous, et toi, est-ce que je suis vraiment vivant? Pas la vie de mon corps, ça. Je suis vivant. Mais la vie de mon âme. Sur quel chemin je suis aujourd'hui et vers quel chemin je vais demain? Est-ce que Jésus-Christ est mon sauveur? C'est ce qu'on a chanté ce matin. Mon sauveur, en parlant de ce repas qu'on va prendre après, on peut témoigner que Jésus-Christ est notre sauveur, qu'il a payé pour nous. Mais est-ce que Jésus-Christ est mon sauveur et aussi mon Seigneur, celui qui règne sur ma vie? Alors vous allez me dire, tu nous as dit qu'on allait parler d'amour, mais tu parles que de mort et de vie. Où est l'amour dans tout cela? L'amour dans ce texte, elle est symbolisée par ce père de famille qui représente pour nous notre Dieu. Un père qui aime, un Dieu qui est amour, un père qui est amour, qui aime par-dessus tout, au-delà de tout, au-delà de ce qu'on peut imaginer. Questionnons-nous, quelle est notre relation avec notre Père céleste qui nous aime par-dessus tout? Est-ce que c'est une relation réelle d'amour et de vie de tous les jours? Ou est-ce qu'il n'y a pas de relation? Peut-être. Ou est-ce que c'est une relation de mort, une relation qui est coupée? On peut simplement avoir cru à Dieu et puis ne pas vivre son amour après. Nous l'avons lu, ce texte nous dit que ce jeune homme était mort. Nous l'avons lu dans notre texte. Le jeune homme était mort. Curieuse affirmation pour un jeune homme qui semble être en pleine forme et qui a envie de partir faire la foire, tambour battant. Et le texte nous dit qu'il était mort. Notre texte parle de son âme, de sa relation avec Dieu, de son état de mort spirituelle. Il connaissait l'amour de son Père, il a vécu dans l'amour de son Père, comme nous vivons dans l'amour de Dieu. Mais est-ce que sa relation était allée plus loin? Est-ce que sa relation était plus loin? Il était dans un état de mort spirituelle. Alors je vous invite à regarder dans notre texte quelques symptômes qui peuvent nous rappeler des états de mort spirituelle pour nous ce matin, pour ce jeune homme. 5 symptômes de mort spirituelle tirés de ce passage et qui nous invitent à réfléchir sur nos comportements dans notre vie de tous les jours, dans notre chemin avec Dieu. Le jeune homme veut partir alors qu'il est dans la maison de son père. Clément, tu peux mettre le premier, s'il te plaît. Veut partir alors qu'il est dans la maison de son père. Alors qu'il vit dans la maison de son père où il a tout, pour lui, la vraie vie est ailleurs. Chercher la vie ailleurs, d'où elle est réellement, voilà un premier symptôme qui doit nous alerter et pour lequel on doit veiller. Chercher la vie autre part qu'elle est. Jésus a montré où est l'unique chemin de la vie. À quoi servirait-il alors à nous de chercher un autre chemin? Nous avons chanté tout à l'heure, ça m'a fait un bien fou, « Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour. » Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour. Pourquoi chercher ailleurs un autre amour, autre chose, alors que Dieu nous donne tout dans ses bras? C'est un premier symptôme de notre jeune homme qui parle de sa mort spirituelle. Il va chercher une vie ailleurs. Il est donc mort à la vie de Dieu. Deuxième symptôme, alors qu'il vit dans la maison de son père, c'est la mort qui l'attire ailleurs. Il est dans la maison de la vie et il cherche autre part. C'est la mort qui l'attire ailleurs. On dit, la maxime dit, qui se ressemble s'assemble. Pour lui, la mort spirituelle, c'est quelque chose qui est lointain, mais c'est aussi toute une excitation qu'il faut forcément aller combattre, aller se frotter, chercher, goûter, braver. Il sait au fond de lui que ce chemin n'est pas le bon, qu'il mène à la mort, mais c'est pourtant le chemin qui l'attire. Il est attiré par la mort alors qu'il est dans l'endroit de la vie. Un troisième symptôme, et posons-nous la question, est-ce que ce n'est pas le symptôme qui nous ressemble le plus? Il n'a pas su résister. Il n'a pas su résister. On appelle ça la tentation. C'est un grand mot, la tentation. On peut parler de la tentation, mais quand c'est pour le mettre pour nous, et nous l'appliquer à nous, c'est plus difficile. Mais regardez là, il n'a pas pu résister. Il n'a pas su résister au départ. Non, les sirènes de ce qui l'attirait étaient trop fortes. Il n'a pas su résister. Il laisse aller. Il laisse faire. Et peut-être notre question ce matin, où est-ce que je me laisse aller? Où est-ce que je me laisse faire? Est-ce que je suis sur un chemin de vie ou est-ce que je suis attiré par un autre chemin que justement celui que Dieu me propose? Celui où Dieu veut régner en Seigneur dans ma vie. Il était réellement mort. Il n'a pas plus de réaction qu'un mort par rapport au chemin dans lequel il va. Il n'a pas de réaction. Il était donc bien mort. Est-ce qu'il a été influencé? Peut-être. Est-ce qu'il est parti seul, de son plein gré? Peut-être. L'histoire ne le dit pas. Mais ce que l'histoire nous dit, c'est que le péché est inné en nous. Le péché est inné en nous. On n'y peut rien. Le diable est fort pour nous tenter. Nous nous rendons compte ici que sa mort spirituelle était totale. Il n'avait plus de réaction par rapport à cette mort. Un quatrième symptôme, il se croyait plus sage que son père. Alors, je ne vais pas faire un parallèle entre père et fils, mais il disait, je veux voir, moi, tout seul. Moi, je sais, moi, tout seul, je vais aller voir, je suis sûr. Pas de risque, hein, oh là là, pas de risque. Moi, je suis assez grand, assez fort pour ne pas me faire avoir. Je sais exactement jusqu'où j'irai, où j'arrêterai et ce que je ferai. Oui? Tout comme l'homme se croit plus sage que Dieu et ne croit pas ses avertissements et ne comprend pas que la planche est savonnée et qu'au fond, il tombe, il glisse inéluctablement. Aussi un état de mort spirituelle. Ne pas comprendre les avertissements de Dieu. Ne pas suivre les avertissements de Dieu, ne pas mettre le Seigneur à la première place pour nous guider et pour entendre ce qu'il nous dit. Et puis, un dernier symptôme qui est encore plus fort par rapport, me semble-t-il, par rapport à cet état de mort spirituelle, il veut s'en sortir tout seul. Je n'ai pas besoin de personne. Au lieu de chercher la délivrance là où elle est réellement, et il sait où elle est, il le sait, puisqu'il va revenir. Il le sait, près du Père, près de Dieu. Il va chercher le secours justement dans le pays où il est, dans les forces qui l'ont trahi. Réfléchissons à notre situation et à la sienne. Quand tout allait bien, il n'a pas su résister. Comment résistera-t-il maintenant qu'il est vidé, que ses batteries sont vides, que ses accus sont à plat? Nous nous apercevons ici que la leçon, sa leçon de vie n'a pas été apprise. Il va tomber encore plus bas, parce qu'il essaye de s'en sortir tout seul. Il va descendre jusqu'au pourceau, nous est-il dit, jusqu'au pourceau. C'est-à-dire, le voilà rendu dans la boue à quatre pattes au niveau des cochons. Avec la différence, c'est que les cochons, ils ont de quoi manger. Ici. Il a compris, pardon, la Bible nous dit que sur le chemin de l'éloignement, le jeune homme a mangé tous les biens de son père. Mais c'est tout ce que l'homme peut faire. Sur le chemin qui l'éloigne de Dieu, l'homme pense s'enrichir d'un tas de choses, d'expériences, d'amusements, de plaisirs, de vie, de richesses. En réalité, il ne fait que s'appauvrir. Sa précieuse substance de vie qu'il avait emmenée avec lui, tout ce qu'il avait au départ, ne fait que s'amenuiser constamment. Et rien ne peut la renouveler sinon Dieu. Rien ne peut la renouveler sinon Dieu. Rappelons-nous bien ceci. Dieu nous a fait pour un seul chemin. Et vous ne faites pas de soucis, il veillera à ce que nous ne soyons pas bien sur tout autre chemin que nous prenons. Mais parce qu'il nous aime, uniquement parce qu'il nous aime, pas pour nous faire du mal. Le seul chemin qui renouvelle l'homme est celui du retour à Dieu. C'est pas parce qu'on est converti et qu'une fois pour toutes, on a dit oui au Christ, qu'on n'a pas besoin tous les jours de revenir sous le regard de Dieu, de dire « Seigneur, encore aujourd'hui et tout à nouveau, je me remets sous ton chemin. » Tout ça, le Père de notre histoire le savait. Tout comme le sait notre Dieu pour nous. Le jour où il a vu partir son fils, pourquoi il ne l'a pas retenu ? Il a été un peu complice aussi. Il a partenu, non. Comme Dieu, il a laissé la liberté de choix. Mais il savait que là où il irait, ça n'était pas le bon chemin. Il ne serait pas heureux. Et il savait aussi, certainement très fort, qu'il n'avait qu'une solution, c'était de revenir. Alors il pouvait commencer à attendre. Et son attente n'a pas été déçue, car mon fils, que voici, était mort et il est revenu à la vie. Oui, dans notre histoire, le fils revient à la vie. Cette parole de Dieu s'adresse à chacun de nous. Nous pouvons revenir à notre Dieu. Nous pouvons revenir à la vie même si nous nous sentons éloignés de Dieu ou si nous avons l'impression que Dieu s'est éloigné de nous. On peut peut-être voir les choses dans l'autre sens. Dans notre texte, il y a des preuves fortes, des étapes de son retour à la vie. La première, en fait, c'est ici la proximité de la mort. De la mort physique pour ce jeune homme. Il n'avait plus rien à manger. Il mourait de faim, dit-il. Je meurs de faim. Vous savez, pour qu'un homme dise « je meurs de faim », c'est pas simplement quand je rentre de balade et que j'ai la fringale. Mais dans l'état où il était, à quatre pattes dans la boue avec les pourceaux, qui disent « je meurs de faim », c'est qu'il était vraiment dans un état de mort physique, de faim. Mais de mort physique qui intégrait aussi une mort spirituelle. Coupé de relation, je n'ai plus de cette relation. Alors le jeune homme réfléchit profondément dans l'état où il est. Moi, je l'ai imaginé à quatre pattes dans la boue en train de réfléchir. Ce n'est pas facile. Mais est-ce que ce n'est pas là que Dieu nous trouve quelquefois aussi? Il réfléchit, il rentre en lui-même et commence par dire « Oui, je meurs de faim ». Quand il paraissait le plus en vie en partant de chez lui, c'est alors qu'il semblait être le plus près de la mort. Mais maintenant, au moment où il paraît être le plus près de la mort, à quatre pattes dans sa boue au milieu des cochons, c'est certainement le moment où il est le plus près de la vie éternelle avec Dieu. Ne nous y trompons pas. C'est Dieu qui l'amène à dire « je meurs de faim » et qui l'amène à poursuivre « mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Quelqu'un qui avoue son indignité de cette façon-là est quelqu'un qui a envie de collaborer avec Dieu et de recevoir son esprit. La Bible affirme que l'œuvre du Saint-Esprit est triple pour nous convaincre de péché, convaincre du péché, de justice et de jugement. Jean 16, 8. Cet homme en a fait l'expérience jusqu'au fond, jusqu'au plus bas. Mais il n'en est pas resté là. Il fait un véritable mea culpa. Et c'est la deuxième étape de son retour à la vie. Une démarche en trois temps. C'est sa réflexion. Je me lèverai, j'irai vers mon Père et je dirai. Et c'est important, c'est là le chemin du retour vers Dieu, du retour vers le Père. Notre homme a réfléchi à ce qu'il devait faire, il l'a mis en œuvre et il a confessé ses torts dans son chemin précédent. Il a compris en son for intérieur que savoir que Jésus-Christ est sauveur ne suffisait pas, ne suffit pas, et qu'il importe aussi de faire de ce Jésus-Christ le Seigneur de sa vie. Que c'est lui qui avait les destinées de sa vie entre ses mains. Lui, le Fils de Dieu, qui connaît et garantit pour chacun de nous le chemin de la vie et le chemin du bonheur. Car Dieu est amour. Décision et action claires et nettes sont nécessaires et indispensables à notre chemin avec Dieu. Que nous soyons sauvés depuis peu ou que nous soyons sauvés depuis longtemps. Alors le jeune homme est allé vers le Père. Il est allé avec ses lamentations, mais sans ses cochons. Il a laissé les cochons. Il est sorti de la boue. Hélas, c'est bien souvent autrement que cela se passe aujourd'hui. Dans notre monde, la lamentation naît facilement sur les lèvres. On se plaint. Dans les yeux des hommes aussi aujourd'hui. Mais combien continuent, parfois même sans rendre compte, à faire bon ménage avec les pourceaux et à rester. Alors pour celui qui revient, l'histoire continue. Elle ne s'arrête pas à ce qui a été gaspillé comme argent, comme temps ou gâché. Vous avez vu, le père, il ne parle pas d'argent quand il revient. Il ne fait pas de reproche. Si vous allez vers Dieu, Dieu ira vers vous. C'est une promesse. Jacques 4,8, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Et c'est là la dernière preuve du véritable retour à la vie du Fils, comme du retour de chaque homme vers le Seigneur de sa vie. C'est l'accueil du Père, l'accueil de Dieu, inconditionnel, chaleureux et porteur d'une nouvelle vie spirituelle et éternelle. Et il y a des conséquences. Il y a des conséquences importantes. Dieu ne veut pas, on le voit dans cette histoire, Dieu ne veut pas nous voir vivre une nouvelle vie avec les habits du passé. Non, il ne veut pas. Alors le Père va donner à son fils un nouveau vêtement, la belle robe. Il l'habille de propre, de neuf. Fini la boue, fini les cochons. Le Seigneur ne veut pas nous voir vivre une vie nouvelle en qualité de mercenaire, d'employé. Alors, il nous adopte comme ses enfants. Mon fils est revenu à la vie. Dieu ne veut pas que nous vivions une vie nouvelle à laquelle s'attache la honte du passé. Il avait honte de ce qu'il avait fait. Il l'a dit à son père, « J'ai péché contre toi et contre le ciel. » Il avait honte. Non, Dieu ne veut pas cela. Alors, il va le chausser de neuf. Vous avez vu, il lui donne des belles chaussures. Il lui met des beaux souliers. Il va le chausser de neuf pour qu'il puisse marcher autrement. Il était peut-être pieds nus dans la boue. Je ne sais pas comment il est rentré. Mais il veut qu'il puisse marcher autrement, les pieds au sec, en nouveauté de vie, une nouvelle marche en avant. Autrement qu'il l'avait fait jusque-là. Le Seigneur ne veut pas non plus que nous vivions une nouvelle vie avec une tête morose qui garde uniquement le signe du passé. Non ! Curieusement, et ça nous choque peut-être, c'est vrai, c'est la fête ! C'est la fête ! La fête totale, amenez le veau gras, mangeons, réjouissons-nous ! C'est la grande fête. Le Seigneur veut que nous nous réjouissions. Et le chemin avec Dieu est un chemin de joie. Jésus-Christ Seigneur, c'est la joie dans notre vie. Et enfin, le Seigneur ne veut pas que nous vivions cette vie nouvelle avec des mains qui ont trempé dans des affaires louches. C'est tout à fait le dessein de ce jeune homme. Alors, il met le Père, au doigt de cet homme, de son fils, un nouvel anneau, une alliance nouvelle, qui parle d'amour, elle aussi, la nouvelle alliance que Dieu va faire, être le Seigneur de notre vie. Frères et sœurs, quand Dieu sauve quelqu'un, il le remet tout à neuf. Intérieur, extérieur. La Bible dit qu'il crée un nouvel homme. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. De Corinthiens 5, verset 17. Personne ne peut dire que cette histoire n'est pas pour lui. Vous allez me dire, Jean-Paul, tu as oublié quelque chose de cette histoire. Il y avait deux fils. Oui, il y avait deux fils. Mais l'aîné, derrière ses bonnes façons et sa façade d'honnête garçon, cachait une âme noire, remplie de jalousie, de mauvais sentiments et de dureté de cœur. Certes, il n'est pas parti dans un pays éloigné. Il n'avait pas trempé dans le péché comme son frère. Il n'était pas descendu jusqu'au cochon. Il ne s'était pas vautré dans le monde et ses plaisirs malsains, mais il s'était montré l'ennemi du père, à son niveau de pensée et de sentiment. Il était mort dans la maison du Père, au même titre que son fils. Alors, réfléchissons et posons-nous devant Dieu. Combien, dans leur vie chrétienne, sont aussi morts alors qu'ils sont dans la maison du Père? Parce qu'ils ne se sont jamais laissés vraiment guider par le Seigneur. Parce qu'ils n'ont jamais vraiment reçu ce nouvel habit total. Oui, du temps du Christ, c'était facile. On disait, ah, mais ça, c'est les pharisiens. C'est facile de les montrer du doigt. Mais maintenant, dans l'Église aujourd'hui, est-ce que nous ne sommes pas par hasard, nous? Et c'est à chacun de nous de répondre dans une situation qui ressemble à celle-là. C'est pour cela que la parole de Dieu nous interpelle. Si quelqu'un se reconnaît perdu, qu'il soit loin de la maison du Père ou perdu dans la maison, il peut toujours revenir à Dieu qui le recevra. Voilà le Dieu d'amour. Voilà l'amour de Dieu. Dieu a donné un seul grand signe, la croix de Jésus. Il n'en donnera pas d'autre que celui-ci. Il n'ira pas plus loin. C'est l'amour qui dépasse le plus terrible des péchés, la plus grande des profanations. Cet amour va au-delà encore. Le Seigneur aime à pardonner et passera toute sa patience, sa miséricorde à pardonner. Mais il faut se repentir, et comme le Fils lui dire, « Père !» Et ça, c'est intime, c'est entre l'homme et Dieu, dans le secret de la chambre, comme il dit dans la Bible. « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et dans ce cas-là, vous pouvez être sûr que Dieu va sortir le veau gras et faire la fête. Il vous prendra dans ses bras, il vous serrera sur son cœur, il vous tiendra par la main tous les jours de votre vie jusqu'à ce qu'il vous introduise dans son royaume. Et pour cela, il faut revenir à lui. Il faut faire comme ce fils prodigue, non seulement dans la tête dire « j'irai », mais « allez », se lever et aller. Alors, qui veut se lever et venir chercher le pardon de Dieu en lui disant « moi aussi Seigneur, je veux cette nouvelle vie ». Je veux cette nouvelle alliance, je veux ces nouvelles chaussures, cette nouvelle joie, cette nouvelle vie que tu me donnes. Je veux l'avoir maintenant. Seigneur, j'en ai assez de mes cochons. Je ne veux plus les voir. Ça sent mauvais. J'en ai la nausée. Est-ce que cela ne nous est pas arrivé à chacun de nous parfois? Alors dans ce cas-là, dites au Seigneur, je viens, je me donne à toi, je reviens, je me redonne à toi. Sois le Seigneur de ma vie. Et à coup sûr, Dieu nous accueillera. Dieu vous accueillera avec son amour de Père. Parce que Dieu est amour. Et il l'a promis. Amen. Voilà comment peut-être prendre la scène d'une façon différente. De revenir à Dieu. De lui dire, par ce jus de raisin qui représente ton sang, par ce pain qui représente ton corps brisé à la croix, tu as fait le sacrifice pour moi. Maintenant, je veux témoigner que tu es mon Dieu, que c'est toi le Seigneur de ma vie, et que tu vas revenir bientôt, et que tu vas nous prendre avec toi pour ton règne éternel. Une autre façon de se sentir motivé à partager ce repas, c'est le repas de la fête. C'est le repas du veau gras. C'est celui où Dieu nous rappelle ce qu'il a fait pour nous et nous invite à y participer. C'est le repas de l'amour, de l'accueil. Venez et mangez, venez et buvez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, partagé pour vous. Seigneur, on veut te remercier pour cela. On veut te louer pour cela. Alors je vous invite à vous engager dans ce repas, à vous remettre individuellement, personnellement en question, à dire « Oui Seigneur, j'ai besoin de toi tous les jours de ma vie. Tu es mon sauveur, mais sois le Seigneur de ma vie, jour après jour, minute après minute, seconde après seconde, et tous les dixièmes qui vont derrière. J'ai besoin de toi. » Seigneur, tu es mort sur la croix, tu as obéi à l'amour de ton Père pour nous et tu as donné ta vie pour nous sauver, pour nous racheter de ce péché, de cette boue dans laquelle nous étions. Et tu as fait de nous des hommes et des femmes libres, libres de marcher avec toi. Seigneur, avec ce repas, avec ce jus de raisin qui représente ton sang qui a coulé pour nous, avec ce pain qui représente ton corps meurtri, brisé, déchiré pour nous, nous voulons te dire que tu es notre Seigneur. Tu es celui qui dirige nos vies. Et nous voulons, comme tu nous le dis dans ta parole, annoncer ton retour, proclamer ta résurrection et ton retour jusqu'à ce que tu reviennes. Sois béni, Seigneur, pour un tel sacrifice. Nous voulons te rendre grâce, t'adorer, et te donner nos vies. Seigneur, reviens en nous et visite-nous chacun individuellement. Amen.
Voilà, je partage avec vous les annonces. Pendant que les gobelets finissent de se ramasser, je vous laisse voir les annonces sur le vidéoprojecteur. La semaine prochaine, il y aura donc mardi 23, l'étude biblique des aînés à 14h30. Le samedi 27, donc encore plus loin, il y aura donc à Genève une conférence pour femmes à Avusy. Alors j'ai disposé des flyers au fond, à Avusy, donc c'est dans la campagne genevoise. Le titre, Un jour à la fois. Alors il y a des flyers qui sont à disposition au fond de la salle. Le samedi 5 mars, on aura la première rencontre sur vol de la Bible. Et puis donc le 6 mars, on aura les baptêmes. Et puis prenez note que le culte des baptêmes commencera à 10h. Donc non pas à 10h30, mais à 10h. On aura un long culte. Donc on veut commencer tôt pour ne pas finir trop tard. Donc notez bien que ce sera à 10h. Un petit peu plus loin encore, pour le culte du 1er mai, donc le culte en commun des différentes églises protestantes et évangéliques du Pays de Gex. Donc on aura un culte en commun le 1er mai. On cherche à constituer un groupe de travail pour la préparation de ce culte. Et c'est toujours une expérience intéressante de faire des choses entre chrétiens de communautés différentes. Donc si une personne de l'église veut bien participer à ce groupe, alors faites-le-moi savoir, il n'y a rien de bien compliqué. C'est surtout au niveau pratique pour mettre en place le déroulement du culte et de ce temps en commun. Donc voilà, c'est ouvert à ceux qui veulent s'engager. Faites-moi signe. Des nouvelles de deux personnes, en particulier de Zoé tout d'abord. Zoé est tombée, le truc tout bête, sauf qu'elle s'est cassée la rotule. Alors la rotule, c'est un petit os qui est situé dans le genou et c'est une articulation importante. La rotule a été cassée en plusieurs morceaux, donc Zoé a été opérée Elle est encore à l'hôpital de la Tour. L'opération s'est bien déroulée, mais voilà, c'est une les suites de l'opération vont prendre du temps. Donc, pensons à Zoé, pensons aussi à sa petite famille, à Paul aussi. Normalement, elle doit sortir demain. Alors, elle ne sera pas forcément très disponible à la maison pour les enfants, tout ça, voilà. C'est important de penser à eux, que les choses se mettent en place petit à petit. Alors voilà, si quelqu'un a à cœur de participer aussi, de donner un coup de main, c'est volontiers, vous pouvez voir avec Lydie. C'est vraiment important de penser à eux, peut-être un téléphone, un petit contact, ça fait plaisir aussi. On a eu la nouvelle aussi de Fernande. Fernande n'était pas bien ce matin et elle est à l'hôpital de la Tour pour un contrôle parce que sa tension est trop élevée. Alors voilà, on peut penser à elle, c'est pour ça qu'elle n'est pas là ce matin. Laure l'a conduite à l'hôpital. Alors je vous invite peut-être à nous recueillir, puis je vais prier pour ces deux personnes. Oui Seigneur, nous voulons penser à ceux qui ne sont pas parmi nous ce matin. Nous te remettons Zoé, que tu la bénisses, que tu bénisses son rétablissement, que tu l'accompagnes, que tu lui permettes de retrouver aussi toutes ses fonctions. Nous voulons te prier aussi pour Fernande. Tu vois qu'elle est à l'hôpital pour des contrôles ce matin. Garde-la, pose ta bonne main sur elle et bénis-la pendant ces moments. Amen. On veut penser aussi à Guy, donc le frère de Rebecca. Guy qui a eu un AVC il y a un petit peu plus de 8 jours. Donc il va mieux, il retrouve progressivement ses fonctions. Il peut communiquer verbalement, par le dialogue. Rebecca me disait que ces dialogues ne sont pas toujours cohérents, mais c'est important. Voilà, il retrouve petit à petit ses fonctions. Continuons de penser à lui, de penser à eux, de prier pour son rétablissement complet, c'est important. Il va probablement bientôt quitter l'hôpital pour aller dans une maison de convalescence, où il puisse faire ce qu'il faut pour retrouver voilà, toutes ses fonctions. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose ou quelqu'un concernant les santé des uns ou des autres. Si ce n'est pas le cas, cette semaine, nous vous invitons à prier pour les chrétiens du Yémen. C'est important toujours de penser à nos frères et sœurs qui sont persécutés. Pensons à nos frères et sœurs qui sont au Yémen cette semaine. Sinon, je vous invite à vous lever. Je vous lis encore 3 versets dans les Romains. Romains 15, les versets 4 à 6. Tout ce qui a été écrit d'avance, l'a été pour notre instruction, afin que par la persévérance et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule voix, vous rendiez gloire au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche, bonne semaine.